Oh, me que se pastel.
Me que se pastel.
Oh, me que se passe.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde, nous sommes le jeudi 14 mars. C'est la journée d'ailleurs internationale des actions pour protéger les rivières. C'est pour ça qu'il y a pas mal de propositions autour de la thématique de l'eau aujourd'hui notamment, qui vous ont été narrées dans l'agenda culturel. Mais nous, on va pas parler de rivières, on va plutôt parler d'aviation, puisqu'il en est pas mal question aussi. Hier, il y avait une grosse journée de mobilisation. On va revenir un petit peu sur pas mal d'arguments et de chiffres sur la réalité de l'aviation, à mettre en lien évidemment avec la problématique du réchauffement climatique, mais aussi et surtout des riverains qui, pour la plupart, n'en peuvent plus d'habiter à côté d'aéroports. Et avant de faire tout ça, on va s'intéresser à une petite info qui est parue dans les colonnes du Point, le Point avec un G, qui est rédigé du côté de Montpellier, avec un scandale de financier qui entache la métropole de Montpellier et qui la met aux prises avec la compagnie low-cost Ryanair. On lit en effet qu'entre 2010 et 2019, et ce au mépris de nombreuses alertes, la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, ainsi que toutes les collectivités, ont subventionné illégalement la compagnie aérienne low-cost Ryanair. Ça s'est passé, bon, ils ne le savaient pas tout de suite, ça s'est passé via l'APFT, c'est l'Association de promotion des flux touristiques. Et c'est un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a mis le doigt un petit peu sur le lièvre. Jugez-en donc. Ça se passe, je vous le disais, au moment où des militants écologistes, justement organisaient hier, justement des mobilisations pour demander le plafonnement du trafic aérien. Cette info tombe donc un petit peu de manière en collision avec tout ça. Ça risque certainement d'alimenter pas mal de discussions. Donc au cœur de tous ces remous, c'est la PFT, l'Association de promotion des flux touristiques. C'est quelque chose qui a été créé en 2010 par la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, et quelques entreprises. Le but de cette APFTE, c'est l'Association de promotion des flux touristiques et économiques. J'avais oublié le E, il a son importance. L'objet de cette association, c'était donc la promotion et le développement du tourisme, y compris le tourisme d'affaires, sur le territoire, et ce, par des marchés de promotion, l'achat de publicité sur Internet et de prestations marketing ou tout autre support publicitaire, comme la participation à des foires ou des salons pour attirer une clientèle internationale, faire connaître Montpellier donc à travers les lignes aériennes pour faire venir des gens, plutôt pour faire du business a priori que du tourisme. Et en pratique, la seule activité qui a été faite justement par cette association, ça a été de subventionner des lignes aériennes sur l'aéroport de Montpellier. C'est un petit peu le problème. L'affaire avait commencé à faire du bruit en 2015. C'était Le Point avec un T qui révélait donc que cette fameuse APFTE avait donc reversé les subventions qu'elle percevait toutes les collectivités. On parle de la ville de Montpellier, la métropole, le département et la région. Et toutes les subventions sont parties direct chez Ryanair via sa filiale qui s'appelle Airport Marketing Service. Une filiale, là aussi, qui fait de la com, mais pour Ryanair. Et cette petite filiale, elle est basée sur l'île de Man. C'est un paradis fiscal. Laurent Dublé, qui est juriste pour Anticor 34, une association qui s'intéresse justement à la corruption, expliquait à l'époque que l'association n'avait donc pas payé d'impôts commerciaux et ne publiait pas ses comptes jusqu'à l'année dernière. Donc à l'époque, c'était en 2014. Pour lui, cette association, c'était une coquille vide pour contourner la législation européenne qui interdit les aides d'État justement vers des compagnies aériennes. Et en tout, on parle quand même de 9,2 millions d'euros que Ryanair a empoché entre 2010 et 2019. 9 millions d'euros qui venaient donc, vous l'aurez compris, c'était de l'argent public. Mais en plus, ce rapport donc de la Chambre régionale des comptes ne s'arrête pas là, puisqu'il montre que cette association n'avait d'autre activité que l'achat de prestations marketing aux compagnies aériennes contrairement à donc, les statuts dont je vous ai parlé un peu avant. Et en plus, ces aides ont été répétées et maintenues malgré les alertes répétées, et ce depuis 2014, notamment par la même Chambre régionale des comptes qui avait déjà dit « attention, ça va pas ». Mais entre 2015 et 2016, la préfecture de l'Hérault a elle aussi emboîté le pas et demandé l'arrêt de ces subventions à la FPTE, à la métropole, mais la métropole a continué à verser de l'argent jusqu'en 2018. On lit toujours dans le rapport de la Chambre régionale des comptes que la décision du tribunal de l'Union européenne ayant confirmé le caractère illégal de ces subventions, la FPTE doit donc s'organiser pour restituer la somme à l'ensemble des financeurs. Donc ça a été jugé par un tribunal européen. Normalement, ils doivent rembourser ces 9,2 millions d'euros. Bon, à noter qu'entre-temps, Ryanair a évidemment déposé en février 2021 et en août 2023 des recours devant le même tribunal de l'Union européenne. Donc le jugement définitif n'existe toujours pas. Et d'ailleurs, tous les acteurs impliqués prennent des pincettes. Par exemple, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, rappelle que si Ryanair a bien reversé la somme de 9,2 millions à la PFTE, donc Ryanair a rendu les sous à la PFTE, mais la PFTE, pour l'instant, n'a toujours pas rendu les sous aux différents organismes qui sont, je vous le disais, la métropole, la région, le département, puisqu'ils attendent le jugement définitif du tribunal européen. La région Occitanie, par exemple, devrait récupérer normalement 3,8 millions à peu près. La ville de Montpellier, de son côté, dans sa réponse, tenait à confirmer qu'elle s'était tenue aux règles de droit en vigueur en suivant les recommandations de la préfecture de l'Hérault et donc a mis fin au versement dès que cela lui a été demandé. La ville a demandé aussi le remboursement de la somme qui lui revenait. Là, on parle de 700 000 euros. Et la métropole aussi, en demandant, elle, de récupérer ses 2,7 millions. De son côté, la PFTE précise qu'elle a bien organisé un système de restitution des sommes via des conventions, mais que celle-ci est dépendante de l'issue finale du contentieux qui est mené par Ryanair devant les instances européennes.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Ouais, c'est histoire de rentrer un petit peu en matière sur la question de l'aviation. Puisqu'hier, je vous le disais, donc hier 13 mars, de nombreuses associations et aussi des riverains réclamaient le plafonnement du trafic aérien pour réduire notamment les pollutions et les nuisances sonores qu'ils causent. Ils se mobilisaient un peu partout en France pour lutter contre cette folle croissance, selon les mots donc, de leur communiqué. C'est une première depuis le début de la pandémie, avec plus de 169 millions de passagers en 2023. Le trafic aérien français a retrouvé son niveau de 2019 et au niveau mondial, ça pourrait bien doubler d'ici 2040. Ça, c'est les projections, voilà, le monde d'après qui ne fait pas rêver. Pour le réseau Rester sur Terre et l'Union française contre les nuisances des aéronefs, l'UFCNA, j'aime bien aéronef, il y a un petit côté un peu désuet, et bien donc pour eux, la réponse est non. Face à l'urgence climatique, notamment, les militants pour le climat et les riverains des aéroports ont décidé donc pour la première fois d'unir leurs forces pour demander ce plafonnement du trafic aérien en dessous du niveau de 2019, histoire de prendre un chiffre qui parlait un peu à tout le monde. Plafonnement, donc limiter le nombre de vols. Ils ont tout d'abord lancé une pétition au ministre des Transports, Patrice Vergriette, et les deux organismes dont je vous ai parlé préparaient hier une mobilisation d'ampleur sur Roissy, Orly, Toulouse, Nice, Marseille, Lille et d'autres grandes villes. Ils appelaient d'ailleurs tout le monde à les rejoindre hier dans 22 villes de France. Il y a eu un petit rassemblement à Montpellier, je vous en parlerai un petit peu plus tard. En tout cas, pour les revendications de ces associations, on trouve, en plus du plafonnement, la mise en place d'un couvre-feu dans tous les aéroports, aérodromes et héliports du pays. Elles doivent se rendre au ministère des Transports demain, normalement vendredi 15 mars, pour être reçues. Alors, si les riverains et les écologistes convergent dans ces luttes, c'est parce que cette croissance folle n'est soutenable ni pour le climat, ni pour les millions de personnes qui subissent nuit et jour le bruit et la pollution des aéronefs. C'est Charlène Fleury, la coordinatrice du réseau Rester sur Terre, qui l'explique au micro de Reporter. Pour elle, donc, nous sommes face à trois menaces vitales, le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre. Le bruit d'abord. 9 millions de Français sont surexposés au bruit, selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ça fait 25 millions de métropolitains qui subissent ces nuisances sonores du transport routier et aérien, et 9 millions à cause du bruit. Et ces nuisances ont une incidence sur la santé qui sont de plus en plus chiffrées. Par exemple, ce rapport de l'Agence européenne de l'environnement, dans lequel on peut lire que la surexposition au bruit entraîne 900 000 cas d'hypertension artérielle chaque année. Ça joue beaucoup sur les maladies cardiovasculaires, parce que c'est nerveux aussi. Et ce n'est pas tout, hein. Troubles du sommeil, de l'apprentissage, anxiété, dépression, le bruit perturbe notre système hormonal et le stress augmente. Malgré l'existence de directives européennes qui existent, elles imposent des plans de réduction au bruit aérien, bien tout ça n'est pas respecté et le bruit continue à augmenter autour des plateformes aéroportuaires, constate justement la présidente de l'UFCNA et qui est elle-même riveraine de l'aéroport de Toulouse. La pollution de l'air, ensuite, provoque plus de 250 000 décès en Europe chaque année. Bon, elle n'est pas que imputable aux avions, mais ils ajoutent leur petite couche de crasse, et notamment avec des particules ultra fines qui sont émises par ces réacteurs d'avions, qui ne sont ni réglementées d'ailleurs, ni même mesurées. La pollution atmosphérique des aéroports reste la grande oubliée des politiques de qualité de l'air, déplore toujours la présidente de l'UFCNA, Chantal Bierdemandé. Et les riverains sont les premiers touchés, puisque la pollution, elle se diffuse quand même depuis le point où elle est émise. Et après, ça se dilue. Du côté de l'environnement, selon la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, l'aviation commerciale, ça représentait 6,8% des émissions de CO2 de France en 2021. C'est pas négligeable quand on sait qu'entre 30 et 40% des Français ne prennent jamais l'avion. Rappelait Alexis Chailloux, le responsable aérien au réseau Action Climat. Donc c'est certains qui polluent et qui pourrissent les autres. Or, explique toujours ce responsable aérien, le chiffre donc des émissions de CO2 prend seulement justement en compte le CO2 et pas les autres gaz à effet de serre, comme ceux qui sont par exemple dans les traînées blanches dans le sillage des avions, qui provoquent un important effet de serre et qui ont des effets deux fois plus réchauffants que la seule combustion du CO2. Voilà, donc a priori, dans les traînées d'avions, il n'y a pas de quoi rafraîchir la Terre avec des plans secrets mystérieux dont tout le monde est au courant. Parenthèse fermée, si on s'intéresse aussi aux mécanismes de compensation carbone qui sont mis en place par de nombreuses compagnies aériennes, elles visent surtout à alléger la conscience écologique des voyageurs, mais elles ne sont pas efficaces, hein. 95% de ces crédits carbone ne permettent aucun bénéfice climatique. Ça, c'est une enquête qui a été menée par plusieurs médias internationaux, dont The Guardian. Ce n'est pas des chiffres complètement en l'air non plus. Alors évidemment, on attend des nouvelles, des solutions qui nous viendront de l'avenir de la technologie pour cet article et ses militants. C'est pas la peine de compter dessus. Par exemple, pour remplacer le kérosène, le carburant des avions, les solutions comme l'hydrogène, les biocarburants ou les carburants de synthèse ne sont à ce jour pas suffisantes et aucune n'a la moindre chance d'être développée à grande échelle à temps. À temps, si on se rappelle qu'il y a quand même quelques ultimatums dans la question climatique qui nous attendent. Le plafonnement du trafic aérien pour eux est donc la seule issue envisageable tout de suite. À ceux qui disent que c'est impossible, le gouvernement néerlandais a récemment prouvé le contraire. En effet, aux Pays-Bas, en 2022, a été prise la décision historique de plafonner le trafic de l'aéroport Amsterdam Schiphol. Ils l'ont limité à 440 000 mouvements par an et c'est en dessous du niveau de l'année 2019. Ça fait donc une baisse de 12%. Bon, les compagnies sur place ne sont pas d'accord, vous vous en doutez, et donc ça se règle encore devant les tribunaux. Donc pour l'instant, la mesure n'est pas effective, mais elle a quand même été votée par le gouvernement. C'est quand même pas rien. Si on revient en France, Clément Beaune, le prédécesseur de Patrick Vergriete, donc ministre des Transports, il s'était engagé au mois de mai dernier à étudier des scénarios de plafonnement, justement dans le cadre des procédures d'études d'impact, selon une approche équilibrée des aéroports franciliens. Dans le cadre de ces dispositifs, le préfet reçoit séparément donc, les associations de riverains, les élus et les représentants de l'aéroport pour élaborer des pistes, des scénarios de réduction du bruit. À l'heure actuelle, il y a des études en cours sur les 8 aéroports français les plus fréquentés, soit Roissy, Orly, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Beauvais, Le Bourget et Bâle-Mulhouse. Bon, si on regarde la réalité, il est difficile de croire à un plafonnement des vols lorsqu'on sait que les lignes aériennes intérieures ne sont toujours pas interdites, même quand il existe une courte alternative en train. Cette interdiction, c'était censé être l'une des mesures phares de la loi Climat et Résilience, qui a été promulguée en août 2021. Mais un décret d'application qui a été publié presque 2 ans après, avec autant de dérogations que possible, rend complètement vide cette loi. Les associations de riverains des 5 aéroports les plus fréquentés d'Europe aussi, puisque c'est pas que en France qu'on râle. Il y avait Paris-Charles de Gaulle, mais aussi Londres, Heathrow, Madrid, Francfort et Amsterdam. Donc les riverains de ces 5 aéroports ont publié d'ailleurs ensemble une tribune dans le journal Libération et dans les journaux de leurs pays respectifs pour demander aussi le plafonnement du trafic. Et c'est donc dans ce cadre que des mobilisations étaient prévues aussi hier dans d'autres villes de France comme Madrid, Francfort ou Liège. À Montpellier, je vous le disais, les militants écologistes, des chercheurs et des riverains étaient réunis place de la préfecture hier pour dénoncer les effets délétères de l'aviation sur le climat et sur la santé. Et on peut citer aussi un petit entrefilet sur un rassemblement un peu plus petit, mais quand même qui en dit long sur la réalité de l'aviation. Ça s'est passé à Grasse, on est dans les Alpes-Maritimes, dans l'arrière-pays, comme on dit, derrière Cannes. Les habitants ont manifesté justement pour réclamer la fermeture. Eux, ils le demandent carrément, la fermeture de l'aéroport Cannes-Mandelieu. En effet, là, ce sont les jets privés et leur vrombissement incessant qui gâchent la vie de tous les habitants de la région. L'aéroport de Cannes-Mandelieu a été le premier à ouvrir sur la Côte d'Azur. Hein. C'était en 1930, à la base d'une toute petite piste avec des petits avions. Mais petit à petit, ça a grossi, se rappelle un riverain. Et aujourd'hui, on a des jets de 35 tonnes qui se posent sur ce petit aéroport. L'association qui veut donc fermer cet aéroport a recensé 72 000 mouvements par an, dont 60 à 70% entre mai et octobre sur la belle saison. À peu près 13 000 décollages et atterrissages, ce sont des jets privés. Le reste, on a des hélicoptères et la petite aviation. C'est toute la nuit et la journée entière quand le vent le permet. Normalement, les pilotes sont censés aller manœuvrer au-dessus de la mer. Mais sinon, quand le vent est du mauvais côté, bah, ils survolent la terre avec une trajectoire en forme de trombone. Et ainsi, constate un de ses riverains, il passe au-dessus de nos têtes pendant 15 km à moins de 150 mètres d'altitude. Pour le confort d'un seul client, souvent dans les jets privés, il n'y a qu'une seule personne, un jet dérange 50 000 personnes sur la zone. Voilà un joli résumé de l'aviation privée. En plus, ces vols redoublent pendant le Festival du film de Cannes, mais aussi pendant le MIPIM, le plus grand salon professionnel de l'immobilier, où il y a des sous aussi visiblement dans l'immobilier et qui se déroule pile poil en ce moment à Cannes. En plus, cet aéroport de Cannes-Mandelieu, il sert aussi de parking pour les jets privés. Hein. Et dans ce cas-là, bah, les jets viennent se garer là-bas, mais à vide, ils ne transportent personne. Hélène Delevoye, qui est responsable d'une agence immobilière à La Roquette, dans la zone, a relevé 56 vols Nice-Cannes en août. Nice-Cannes, ça fait 30 km hein, quand même. Avoir deux aéroports si proches, dit-elle, c'est indécent. Celui de Cannes est destiné aux privilégiés. Donc les gens atterrissent à Cannes et après ils reprennent un petit avion pour aller à Nice ou l'inverse. Au lieu de venir, je sais pas, en taxi quoi. Un autre militant s'intéresse au plan de vol des avions. Et d'ailleurs l'année dernière, bah, il a noté qu'un jet privé faisait Genève-Cannes et qu'il volait exactement à la même horaire qu'un vol commercial qui faisait Genève-Nice. Pour faire Genève-Cannes, le jet privé a pris 43 minutes. Pour faire Genève-Nice, le vol de le normal a pris 40 minutes. Il explique que c'était donc plus rapide avec EasyJet qu'avec le jet privé. Voilà, on va conclure ici toute cette problématique d'aviation. Petite info locale aussi, vous l'avez peut-être entendu hier, il y a eu une énorme explosion qui a fait vibrer les murs et les fenêtres de maisons. On l'a entendu d'Alès à Montpellier jusqu'à même la Lozère. Bon, aucune info officielle, mais a priori, c'était justement un avion militaire qui passait le mur du son, voilà. Ils sont censés être interdits de le faire en dessous de 10 000 km quand ils sont au-dessus du territoire. Donc voilà, peut-être qu'il était au-dessus des 10 000 mètres d'altitude. Peut-être qu'il n'y était pas, on ne sait pas. En tout cas, ça a été assez impressionnant et voilà, les gens se demandent encore un peu ce que c'est. A priori, donc, ça devrait être, c'était un mur du son et non pas une explosion de mine ou de bombe ou je ne sais quoi.
Qu'est-ce donc cette diablerie ?
Des nouvelles du monde.
Puisqu'on parlait d'avion, petite info que j'ai trouvée dans Middle East Eye, qui fait un peu froid dans le dos. On est à Gaza, et c'est les Palestiniens qui ont dénoncé justement le largage aérien de tracts par Israël. Tout ça à l'occasion de l'inauguration du mois sacré, du Ramadan. Ils ont parlé de torture psychologique. Jugez-en vous-même. Ce sont des tracts donc, qui sont distribués depuis les airs et qui atterrissent sur les gens dans les rues. Et on lit dessus en arabe. N'oubliez pas de nourrir les nécessiteux et à parler avec gentillesse. Voilà des tracts largués à un moment où des centaines de milliers de personnes dans ce territoire assiégé risquent de souffrir de la faim, enfin souffrent de la faim d'ailleurs, en raison du blocus israélien sur les approvisionnements en nourriture et en eau. Certains parlent bah, justement de famine volontaire, voire de génocide. Ce tract était rédigé en arabe. On voit des images de lanternes typiquement utilisées comme décoration pour le Ramadan. On peut y lire une prière demandant à Dieu que les jeûnes soient acceptés et les péchés pardonnés. Les jeûnes, comme quand on fait le jeûne à Ramadan. Et la prière dit également que les Palestiniens de la région est une délicieuse rupture du jeûne. Ça, c'est le soir quand on peut manger. Voilà, c'est un peu cruel, voire franchement abject. Une avocate spécialisée dans les droits de l'homme, Mai El-Sadani, a qualifié ce geste de profondément dépravé. Elle ajoute qu'Israël était responsable de la famine du peuple palestinien. Au moins 20 Palestiniens sont morts de déshydratation et de malnutrition depuis le début de la guerre le 7 octobre, puisqu'Israël a coupé tout approvisionnement en nourriture, ou alors vraiment au compte-gouttes et dans des conditions dramatiques, et également l'approvisionnement en aide, en électricité ou en carburant dans cette enclave assiégée. Environ 2 millions de Palestiniens de Gaza ont été déplacés selon les Nations Unies. La plupart d'entre eux sont réfugiés dans les camps de déplacés, des écoles ou des abris de fortune. Et le commissaire général de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens avertissait déjà à la fin du mois de février que Gaza était au bord de la famine, en expliquant que la dernière fois que justement son organisation avait pu livrer de l'aide alimentaire, c'était le 23 janvier. Au moins 500 000 personnes sont donc confrontées à la famine, tandis que la quasi-totalité de la population, soit 2,3 millions de personnes à Gaza, souffre d'une pénurie alimentaire aiguë. Ça, ce sont les chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Depuis le 7 octobre, d'autres chiffres, au moins 30 000 Palestiniens ont été tués en Gaza, donc plutôt dans les frappes meurtrières. 70 000 personnes ont été blessées, une vingtaine, donc je vous le disais, mortes à cause de malnutrition ou de déshydratation. Et on ne compte pas les enfants qui en souffrent aussi. Les images sont terribles, celles qui arrivent sur les réseaux sociaux. C'est pas la première fois qu'Israël fait ça, larguer des tracts sur Gaza, notamment à la veille du Ramadan, une forme de guerre psychologique. C'était en juin 2018. À l'aide de drones, les forces israéliennes avaient largué des tracts dans le contexte des manifestations de la Grande Marche du Retour, au cours desquelles au moins 223 Palestiniens avaient été tués. On lisait à l'époque « Résident de la bande de Gaza, salutations et que le Ramadan vous apporte des bénédictions ».
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, on part en Argentine faire un petit bilan des 3 mois de présidence de Javier Milei. C'est le média en ligne Contre-Attaque qui a été un petit peu glané des infos. Ça fait un peu plus de 3 mois, donc ce président ultra-libéral, je ne sais même pas si c'est le mot, Javier Milei, donc élu président de la République, a imposé une dérégulation brutale et verrouillé la contestation sociale. Sa politique, pour les auteurs de ce petit article, aura au moins un avantage, montrer au monde entier le danger, justement, de l'idéologie ultra-libérale. Quelques mesures phares, donc. 3 jours après sa prise de fonction, Javier Milei avait lancé un plan d'austérité de choc, une dévaluation de 50% de la monnaie, destruction de ministères, coupes budgétaires, suspension des travaux publics et réduction des subventions au transport et à l'énergie. Contrairement à ce que promettait ce président, l'inflation ne s'est pas arrêtée avec son plan d'austérité. Elle atteint aujourd'hui le joli chiffre de 276% sur un an. Donc les choses ont augmenté de presque 3 fois leur prix. Depuis le mois de décembre, le taux de pauvreté, qui était déjà très élevé avant sa victoire, qui est d'ailleurs peut-être une des raisons qui a poussé à son élection, ce taux de pauvreté est passé de 44% à 57%. Les salaires ont baissé de 21% en moyenne et le crime organisé explose. S'il n'y a pas encore de famine, là aussi, c'est grâce à l'organisation pour l'instant des 40 000 soupes populaires et aux solidarités, donc à l'opposé de la politique qui est prônée par cet ultralibéral. Pour couronner le tout, d'ailleurs, le président Milei a augmenté son salaire de 48%. Bon, ça, c'est pas passé. La provocation a engendré d'importantes réactions populaires, à tel point qu'il a dit que c'était une erreur qui n'aurait jamais dû arriver. Il a annulé son augmentation et il a fait ça à la télé en direct. Il a viré en direct son ministre du Travail en l'accusant d'être responsable de l'augmentation. Genre, le gars était pas au courant, quoi. 2 jours avant la journée des droits des femmes, aussi, Milei a organisé une rencontre avec des collégiens et des lycéens. Il leur a déclaré que l'avortement était un meurtre et que les partisans de sa légalisation étaient des assassins. Le droit à l'IVG n'a été obtenu que de haute lutte en 2021 en Argentine. Il est donc là aussi clairement menacé par les mots du président. Javier Milei a d'ailleurs purement et simplement supprimé le ministère des Femmes, des Genres et de la Diversité. Et il a annoncé aussi la fermeture de l'Institut National contre les Discriminations, puisqu'il a estimé que ces institutions étaient inutiles. Enfin, le gouvernement vient de fermer du jour au lendemain l'agence de presse publique TELAM, qui était fondée en 1945 et qui emploie plus de 700 personnes, l'équivalent de l'AFP chez nous. Les journalistes ont découvert les locaux fermés et gardés par des policiers. Il a déclaré leur agence d'organe de propagande. C'est comme si l'AFP donc, a été annihilée d'un coup sur décision présidentielle. Le gouvernement est en train de mener une des pires attaques envers la liberté d'expression des dernières 40 années de démocratie, a dénoncé dans un communiqué le syndicat de journalistes argentin Cipreba.
Je fais what? D'où? Mais d'où ça sort, quoi? D'où ça sort?
Allez, on termine avec quelques infos un peu plus positives, ou en tout cas un peu plus vindicatives, on va dire. Les écureuils, toujours du nom de ses opposants à l'A69, malheureusement, ils n'ont pas convaincu la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne qui s'est penchée sur leur requête ce 6 mars dernier. Elle a débouté la requête en urgence qui était déposée contre l'État français quelques jours plus tôt par les opposants donc à l'autoroute. Cette saisine, donc la requête qu'ils ont faite, s'appuyait sur la déclaration du rapporteur spécial des Nations Unies, Michel Fort, dont je vous ai déjà parlé, qui s'alarmait du traitement réservé aux militants perchés dans les arbres de ces chaînes centenaires près de Castres, dans une zone qui s'appelait la Crème-Arbre, et où les forces de l'ordre les ont délogés dans des conditions plus que douteuses. Ils étaient assiégés par ces forces de l'ordre depuis le 15 février, et ils ont dénoncé des privations d'eau et de nourriture. Le fait que leur corde de rappel ait été coupée, puisqu'il est laissé sans sécurité à plus de 20 mètres de haut, ou encore des privations de sommeil à l'aide de lampes stroboscopiques et de cris. Deux jours avant cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, le préfet du Tarn avait finalement autorisé leur ravitaillement. Le collectif La Voix est libre dénonce justement une mise en scène orchestrée par l'État. Hier, nous avons tenté un nouvel approvisionnement, explique-t-il, le 7 mars. Les vivres ont été déposés par les gendarmes à proximité des arbres, mais hors de portée donc de ces militants. Donc, ils n'allaient pas descendre, les récupérer et se faire arrêter. Nous sommes consternés devant tant de cynisme, écrivait-il. En signe de protestation, deux des militants perchés ont entamé une grève de la faim le même jour. Et bon, si cette zone est en train de se faire gentiment virer, je vous le disais, d'autres arbres sont depuis habités par des écureuils qui continuent donc leur lutte.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Petite info sur la nature aussi, et l'ours des Pyrénées. Vous savez, normalement, le mois de mars, c'est la sortie de l'ours de sa tanière. Seulement voilà, cette année, certains d'entre eux n'y ont presque pas mis les pattes. L'absence de neige et les températures plutôt douces ont été telles que les ours ont modifié leur comportement et n'ont pas été hivernés. Ce ralentissement du métabolisme qui est l'hibernation plonge d'ordinaire les ours dans un état de somnolence le temps que se passe l'hiver. Leurs dépenses énergétiques s'effondrent, ils font des économies, les réserves de graisse accumulées à l'automne entrent en jeu et le manque de nourriture est ainsi pallié. Et bah cette année, pourtant, des images du fantôme des montagnes, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les Pyrénées, ont été capturées à plusieurs reprises par les caméras automatiques de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Ils ont pu apercevoir la femelle Sorita et ses deux oursons dans la vallée d'Ossau, et d'autres spécimens ont été aperçus en Haute-Garonne ou en Ariège. L'ours est une merveille d'adaptation, témoigne Jean-Jacques Camara, un spécialiste du grand prédateur. On peut imaginer qu'un jour, dit-il, les animaux n'hivernent plus. Tout dépendra évidemment du climat. Et on termine avec une nouvelle ZAD qui est poussée encore en France. Ça s'appelle la Barzad, c'est dans le Vaucluse. C'est une ferme qui est menacée de destruction par un projet routier qui a été occupé par des militants. Même si Gérald Darmanin promettait qu'aucune nouvelle ZAD ne pourrait s'installer pour défendre l'environnement contre les projets inutiles et nuisibles, visiblement, il y en a qui ne l'ont pas entendu. Une nouvelle occupation a donc eu lieu dans le Vaucluse contre la LEO, ça veut dire liaison Est-Ouest Avignon. C'est une 4 voies qui va faire le tour d'Avignon, un vieux projet imaginé dans les années 80 qui va détruire les territoires des personnes qui y habitent. Ce projet d'un montant prévu de 367 millions d'euros traîne depuis plusieurs décennies. Il a été relancé en 2016, puis désavoué par la justice en 2020, encore là pour des raisons environnementales et sanitaires, à cause aussi des risques de pollution trop importants et surtout une étude d'impact complètement dépassée. Mais il a malgré tout été imposé en 2021 par le Premier ministre. Ça nous fait vraiment fortement penser à plein d'autres scénarios en France, notamment celui de la 69 entre Toulouse et Castres en ce moment, ou celui du Lien, qui n'est pas en autoroute, mais pas loin, au nord de Montpellier. Donc du côté d'Avignon, les pelleteuses sont sur le retour pour bloquer donc ces machines et empêcher l'avancement du chantier, contre lequel plusieurs associations se battent aussi sur le terrain juridique, des personnes ont donc décidé d'occuper, de squatter un ancien corps de ferme pour qu'il ne se fasse pas détruire, et il est sur justement la zone des travaux. Ils ont déclaré une nouvelle ZAD, ils l'ont baptisée la Bar ZAD. Ces occupants et occupantes appellent d'ailleurs les personnes qui voudraient enrayer la méga machine routière à se joindre à eux et à en déployer aussi des zones d'occupation partout où il le faudra. Depuis ce lundi, les bâtiments sont menacés de démolition, c'est pour ça qu'ils ont été occupés à cette date-là. L'occupation a pour objectif de tenir, mais elle a besoin de renforts, de matelas, de couverture et d'eau. N'hésitez pas, si vous avez envie de les rejoindre ou de prendre des informations, il y a une adresse 2747 avenue de la Croix-Rouge et on est sur Avignon.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Mais le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Moi, je suis chauve, donc je m'en fiche un petit peu. Allez, on se quitte avec un morceau qui nous parle d'avion. C'est un petit clin d'œil aux amis de la Livrothèque d'Upina qui sont à Recife, au Brésil, qui ont un groupe de musique, qui ont composé ce morceau. Et je vous encourage, si vous n'avez pas fait, allez écouter le magazine Ethnovibro, disponible en podcast sur le site, qui s'intéresse donc à cette initiative très chouette de bibliothèque autogérée et centre social. Et on écoute donc le Melo do Avião par la bande Pedibody.
O amor e o carnaval, ambos têm cheiro de banheiro químico e prazo de validade. Só duram 4 dias, depois perdem como a saudade.
O avião, ele invadiu o espaço do meu quintal. O avião, ele invadiu. Ele invadiu o espaço sideral e eu estava cantando na casa verde lá no quintal. Existe um pé de mijo, oh mijo gelado. Por causa dele meu coração tá lascado, oh mijo gelado. Olhei pra cima e ia passando um avião, o avião. Ele invadiu o espaço do meu quintal, o avião. Ele invadiu o espaço. De carnaval, ele tem cheiro de banheiro químico, oh mijo fedido. Por causa dele meu coração tá ferido, oh mijo fedido, amor miserável. Mas ele fede igual a minha saudade. O avião, ele invadiu o espaço do meu quintal. O avião, ele invadiu o espaço sideral. As torres gêmeas, ela invadiu o espaço do meu quintal, Mourado B. Ela invadiu o espaço do meu quintal, JCPM. Ele invadiu o espaço do meu quintal, Shopping Rio Mar. Ele invadiu o espaço do meu quintal, o Batalhão. Ele invadiu o espaço do meu quintal.
Bora porra, mão na cabeça, levanta a camisa.
Eu tô sem camisa,
tira a coca do bolso.
Não é coca não, é item.
Cadê o biscoito? Cadê o biscoito? É da Natura ou Jequiti?
É Goofies.
É droga, porra. Deixe preso.
Oxe, é por isso que o Brasil não progrede.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.